Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons aborder une question aujourd'hui. Y a-t-il un cas difficile pour Dieu? Notre titre, c'est « Cas difficile ?» point d'interrogation. C'est pour dire, y a-t-il un cas difficile pour Dieu? Nous allons lire dans Jean chapitre 11, du premier verset au verset 46. Y a-t-il un cas difficile pour Dieu?
Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est point en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. »
Voilà une première partie. Donc on vient annoncer à Jésus que son ami Lazare, celui qui l'aimait tant, il est malade. Et Jésus traîne encore dans le lieu où il était. Il traîne encore. Ce qui pouvait paraître anormal pour les sœurs de Lazare, qui connaissaient, qui étaient aussi des amis de Jésus. Et Jésus va dire aux disciples, « Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. » Il a parlé d'une manière imagée pour dire que Lazare était mort, mais je vais quand même le réveiller. Moi, je pense que les disciples avaient bien compris qu'il s'agissait de la mort, parce que le monsieur était très malade, et du coup, dans la suite de la maladie, Jésus dit « il dort », donc ça veut dire qu'il est mort, puisque quelqu'un qui est malade, bon, on va dire « je vais le guérir », parce que s'il était malade, Jésus aurait dit « je vais aller guérir Lazare », parce que les malades dorment aussi. Donc je ne vois pas pourquoi Jésus va dire « Lazare dort, mais je vais le réveiller », parce que les malades dorment aussi, mais ça ne finit pas leur maladie. Donc le vrai problème, s'il était vivant, ça serait la maladie, ça ne serait pas un sommeil qui peut nous prendre même quand nous sommes malades. Je pense que les disciples avaient bien compris que Jésus parlait de la mort. Mais pour eux, c'était trop difficile qu'un mort ressuscite. C'était un cas compliqué. Ils ont préféré ramener à la maladie. Ils ont dit, « Seigneur, au verset 12, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Voilà, s'il dort, donc si c'est le sommeil normal, ben toi tu vas le guérir de la maladie. Parce qu'ils étaient habitués à voir Jésus guérir les lépreux, guérir les malades. Là, ils n'avaient pas trop de doutes là-dessus. Ils avaient déjà vécu ça. Leur problème, c'était que là, c'était un cas difficile. Le monsieur était mort. Nous nous souvenons de l'histoire de la fille de Jaïrus. Ce monsieur, dirigeant d'une synagogue, qui était venu voir Jésus pour lui dire « Viens vite au chevet de ma fille pour prier pour elle afin qu'elle soit guérie. » Et pendant qu'ils étaient en chemin, il y a quelqu'un qui vient lui dire « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Voyez, donc les gens, ils se sont dit, c'est vrai qu'il guérit les malades, mais il y a quand même une limite. Là, la fille est morte. Ça devient compliqué. Mais compliqué pour qui? C'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Il n'y a pas de cas difficile pour Dieu. Il n'y en a pas. Ce que nous considérons comme cas difficile, c'est notre cerveau qui nous le dicte. Nous confondons les choses qui traînent avec la difficulté. Ce n'est pas parce que quelque chose traîne que c'est difficile pour Dieu. Si ça traîne, il y a des raisons. Mais ça ne fait pas de la chose un cas difficile. C'est des cas que nous devrions appeler des choses qui traînent, des choses qui prennent du temps, sous-entendu, c'est dans la sagesse de Dieu, nous ne savons pas quoi. Mais notre part à nous les humains, c'est de continuer à prier. Mais transformer ces choses en cas difficiles, c'est baisser sa foi. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de cas difficiles. Et Jésus, comme il a vu leur jeu, il a vu qu'ils l'ont pris au mot. Il a dit, il dort. Nous aussi, on considère qu'il part du sommeil. En réalité, le miracle qui va s'accomplir là-bas, c'est la guérison. Jésus précise bien, non, il est mort. Il est mort, mais j'ai fait exprès de ne pas être là-bas pour que vous compreniez à qui vous avez affaire à ma personne. Vous savez, Jésus, c'était devenu même ses amis, mais ils avaient quand même des limites dans la conception de la grandeur du Seigneur. Alors, il voulait leur faire une démonstration de sa grandeur pour qu'ils restent avec ces démonstrations. Parce que c'est eux qui allaient porter l'Église plus tard. Il fallait qu'eux, ils soient dans la vraie conception de qui est Jésus pour transmettre ça aux autres. Donc, Jésus a fait exprès de traîner pour que Lazare soit vraiment bien mort. Bien, bien mort. Parce que dans la tradition juive, on disait que quand 3 jours n'étaient pas encore passés, l'âme du mort errait encore dans le coin. Voilà. Donc, c'est pourquoi avant 3 jours, on pouvait comprendre peut-être une résurrection. Mais après 3 jours, non. Voilà, c'est impossible. Là, c'est fini. L'âme est partie je ne sais où. Donc, c'est fini. L'âme était partie je ne sais où. Et c'était ça leur conception des Juifs. Alors, Jésus a fait exprès de laisser le temps passer. Il a dit, je fais exprès afin que vous voyez. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Nous continuons verset 16. Donc, première observation, les disciples qui veulent transformer ça, c'est un cas très difficile pour eux que quelqu'un soit mort. Et ils veulent dire, mais non, mais on parle là de la maladie, tu peux le guérir, mais la mort, mon vieux, là, c'est autre chose. Voilà, c'était pour eux un cas difficile. Nous continuons.
Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et Comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. »
Voilà la deuxième étape. La sœur de Lazare vient voir Jésus pour lui dire, « Là, ton ami, il est mort. Mais pourquoi, entre guillemets, pourquoi tu as traîné? Si tu étais venu avant, tu l'aurais trouvé malade et tu aurais pu le guérir. Mais là, il est mort. Mais je sais que Dieu est avec toi. » Voilà. Donc Marthe garde une foi de base. C'est la foi de tous les chrétiens. Et nous avons une foi de base sur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est prêt même à se battre pour dire il est Dieu. Voilà. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Pour nous, il est Dieu. Pour nous, il est fils de Dieu. Pour nous, il est venu du ciel. Voilà. Cette foi-là, Marthe continue à l'avoir pour dire, je sais que même là, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il a une foi générale comme ça que nous avons tous. Mais elle rajoute, quand Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Parce que Jésus connaît notre foi générale. Quand il nous fait trop parler devant les musulmans pour dire, nous avons le bon Dieu, nous avons raison. Et voilà, il connaît tout ça. Il dit, oh, ça c'est la théorie. Jésus veut dire à Marthe, ça c'est la théorie, je vais le ressusciter. En fait, tout le monde faisait tout pour fuir cette possibilité-là de prière de résurrection. Il cherchait à aller éloigner le débat. Jésus dit, je suis venu régler le problème. Elle dit, mais non, mais je sais que Dieu est avec toi. Tu aurais réglé le problème quand il était malade, entre guillemets. Passons à autre chose. Marthe veut lui dire, passons à autre chose. Moi, je continue quand même à croire en toi. Passons à autre chose. Jésus dit, on ne va pas passer à autre chose. Je vais le ressusciter. Marthe, dans son cœur, dit, ah, quand même. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est pas mal, hein, bien-aimé, d'avoir cette foi que nous irons au paradis. C'est pas mal. D'ailleurs, je trouve que ce texte montre que les disciples de Jésus avaient compris au moins ça, qu'au jour de la mort, ils iront au ciel avec le Seigneur. Marthe comprend ça, il dit, il ressuscitera au dernier jour. Nous devons comprendre. S'il vous plaît, je veux que nous comprenions le débat que Jésus lui-même impose dans cette affaire. Au fait, Jésus, dans cette affaire, il veut dire, je veux bien que toi, chrétien, tu crois que tu iras au paradis, mais je veux aussi que tu crois que ma puissance est actuelle. Ce n'est pas une histoire du jugement dernier, je vais sélectionner et amener certains au paradis, d'autres iront en enfer, c'est pas ça seulement. C'est très bien déjà. Mais passons à une autre étape. Voilà ce que Jésus veut dire à tous ces gens-là qui sont autour. D'accord, vous avez déjà cru en moi pour être votre sauveur, pour être celui qui va vous amener au ciel. Mais maintenant, je veux que vous croyiez en moi comme celui qui maîtrise tout sur cette terre. Que je peux faire ce que je veux. C'est ça l'étape à laquelle Jésus veut nous amener tous. Attention, tout est possible avec Jésus. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voilà la réponse que Jésus donne à Marthe. Il dit à Marthe, c'est maintenant que je suis la résurrection. Ce n'est pas au dernier jour.
Parce que Marthe dit, mais il ressuscitera au dernier jour. Tu le on croit que tu le ressusciteras au dernier jour. Mais là, mon vieux, c'est compliqué. Jésus dit, dès maintenant, je suis la résurrection. Frères et sœurs, dès maintenant, il n'y a pas de cas difficile pour Dieu. Ne croyons pas en Dieu seulement pour le jour de la résurrection finale où nous aurons de nouveaux corps. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Ne croyons pas qu'en cela. Jésus veut dire, c'est maintenant que je suis la résurrection. Dès maintenant. C'est bien la première étape que vous ayez compris que je ferai tout nouveau plus tard. Mais dès maintenant, je suis la résurrection. Conséquence, il n'y a pas de cas difficile. Parce que le cas le plus difficile sur cette terre, c'est la mort. La mort, c'est le cas le plus difficile. Tu peux citer tout ce que tu veux. Tu peux me sortir un voyou. Tu peux me sortir un bandit. Tu peux me sortir un possédé. Tu peux me sortir quelqu'un lié à la cocaïne. Son cas n'est pas plus difficile que quelqu'un qui est mort. Quand quelqu'un est mort sur cette terre, c'est fini. Donc le cas le plus difficile, c'est celui-là. Là, nous sommes en plein, entre guillemets, cas difficile. Mais Jésus aborde ça d'une manière simple, parce que pour lui, ce n'était pas un cas difficile. C'est pourquoi il a dit, il dort. Il veut montrer que pour lui, c'est comme si quelqu'un dormait. C'est pour dire, pour moi, ce n'est pas un cas difficile. Et ça devrait désormais être votre position aussi. Qu'il n'y a pas de cas difficile pour Dieu. Alors, nous continuons. Verset 27, 26.
Verset 26. Je commence au verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Il pleurait. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. »
Voilà, troisième étape, Jésus pleure. Jésus ne pleure pas parce que le cas est difficile pour lui. Il pleure parce qu'il nous aime. Vous voyez, les Juifs, ce qu'ils disent, quand ils disent, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait, ils se sont trompés. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il aimait Lazare. Il a pleuré parce qu'il nous aimait tous. Voilà, il a pleuré de voir comment nous sommes faibles, nous sommes malmenés par Satan, sans victoire, sans force. Il a pleuré de voir le sort de l'humanité. Dieu nous a créés à son image et Satan a rendu les humains esclaves. Jésus a pleuré pour ça. Jésus a pleuré de voir que nous étions sans force face à la mort. Or, pour Jésus, la mort est un esclave. C'est un esclave. Il a pleuré de beaucoup de choses. Il a pleuré de colère en même temps. Pleurer pour nous, de voir comment nous souffrons face aux maladies,
nous souffrons face à la puissance du péché. Il a pleuré pour ça. Mais il a pleuré aussi de colère. Parce qu'il sait au fond de lui que tout ça, c'est des petits qui peuvent être balayés. Mais que nous ne sommes pas entrés dans notre héritage. Il est venu nous faire entrer dans notre héritage. Des fils et des filles de Dieu. C'est ça son rôle. Il a dit, ça suffit. Les humains doivent récupérer leur position de créatures à l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas se laisser dominer par une cigarette, se laisser dominer par l'homosexualité, se laisser dominer par les vêtements. Non, ça suffit. Et Jésus a pleuré. Il a pleuré de voir notre sort. Mais Jésus savait ce que lui, il allait faire, puisqu'il avait prévu ça depuis. Mais quand il voit notre attitude, il pleure. Il se dit, c'est pas normal que mes frères souffrent comme ça. Il pleure de voir ses frères souffrir et il pleure de colère de voir que nous ne sommes pas entrés dans notre héritage. Et c'est ça son objectif. Vous savez, il a inventé cette polémique. Il est resté 4 jours exprès pour inventer cette polémique pour nous parler. Pour dire, je vais faire 4 jours pour qu'ils comprennent une fois pour toutes qui je suis. Et quiconque me suit, c'est qu'il devient aussi. C'est ça le but. Et nous continuons verset 38. 37, pardon.
Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant.
Voilà, quatrième élément. Même le but.
C'était une grotte et une pierre était placée devant.
Voilà, quatrième élément. Même le public reste scotché sur quoi ? Sur la maladie. Ils se disent, ah, mais lui, il a ouvert les yeux des aveugles. Donc, tant qu'il était malade, s'il était venu là, il allait le guérir. Mais là, c'est trop tard. Ce que confessent ces gens-là, c'est trop tard. Vous savez, il y a une chose que Dieu n'accepte pas, que quelque chose soit adoré. Adoré même, déjà adoré. Mais plus grave, adoré au-dessus de lui. Nous sommes en train de voir l'éloge de la mort depuis le départ, depuis où ils étaient là-bas. Les disciples ont dit, mais oui, mais s'il dort, d'accord, tu peux faire quelque chose, mais si c'est la mort, mon vieux. Donc la mort, voilà, la mort est puissante. On arrive devant Marthe, même discours, mais là, il est mort. Et on arrive devant, et Jésus pleure, et Jésus s'avance vers le tombeau. Les gens disent, mais oui, mais quand s'il était là, il aurait guéri. Mais pourquoi il n'est pas venu? Maintenant, il est mort, c'est trop tard. Et c'est trop tard, il est mort. Donc Jésus est en train de voir la mort être louée. Je vous ai dit une fois que dans les évangiles, vous verrez nulle part Jésus à côté de la mort. Allez vérifier. Jésus n'a jamais coexisté avec la mort dans l'évangile. Dès que il avait en face un mort, il ressuscitait les morts. Parce que c'est une guerre d'esprit, une guerre de puissance. Donc quand Jésus se retrouvait devant la puissance de la mort, il frappait la puissance de la mort, il prenait le dessus. Il n'a jamais coexisté avec la mort jusqu'au bout où quelqu'un meurt à côté de Jésus, ça n'existe pas. Dès que la mort était à côté de Jésus, la personne devait ressusciter. C'était une guerre qui s'enclenchait et il est dans cette guerre-là. Il arrive, il dit, ben écoute,
Nous allons lire comment il va dire avec... maintenant, là, les choses deviennent sérieuses. Il est en colère.
Verset 39.
Verset 39, Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?»
Voilà. Jésus dit, « Bon, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ôtez, enlevez la pierre. » Mais Marthe dit, soyons sérieux, Seigneur. Ça fait 4 jours. Là, maintenant, nous passons de la mort à la mort de 4 jours. Avant, le problème, c'était la mort. Mais il est mort. Il est mort. Il est mort. Maintenant, là, ce n'est plus le problème de la mort, mais la mort depuis 4 jours. Marthe lui dit, mais quand même, là, il sent. Qui peut réparer ce qui sent déjà, quelque chose qui pourrit, qui sent, qui peut réparer ça? Seigneur, Jésus se retourne devant Marthe. Je viens d'avoir une conversation avec toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, les textes bibliques sont remplis de ça, de la démonstration de la gloire de Dieu. La nature est remplie de la démonstration de la gloire de Dieu. Quand une chenille se transforme en papillon, observez ça. Mais c'est une résurrection. C'est vraiment ce que nous lisons dans la Bible. Et Jésus venait de parler à Marthe pour dire, Marthe, le débat n'est pas sur la résurrection finale, c'est maintenant que je suis la résurrection, c'est maintenant. Aujourd'hui, les gens sont toujours là. Tu as bien arrangé ta carte vitale. Hein? Oh, d'accord. Mais nous devons penser à la carte vitale éternelle, celle que Jésus-Christ nous donne. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Et là, quand le médecin va dire, mais il y a telle molécule compliquée dans les résultats, la personne rentre toute triste à la maison. Mais est-ce qu'une molécule peut dépasser Dieu? Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe dit, mais il sent. Jésus dit, mais combien de fois je dois te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, que personne ne te vole ce qui est à toi. Ce que je suis en train de lire, c'est ce que Jésus nous a donné. Il a créé ce débat pour nous faire réfléchir à ce qu'il nous a donné. Il savait que même si ses disciples le suivaient, ils étaient prêts à mourir pour lui, ils avaient une limite dans la conception de qui est Jésus, dans la conception de la puissance de Jésus. Ils avaient une limite. Il fallait casser cette limite-là avec l'histoire de Lazare. Nous continuons.
Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-les aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait.
Voilà, bien aimé. Voilà, bien aimé. C'est pas tous les humains qui vont croire, malgré la démonstration de la gloire de Dieu. Mais c'est pas ça le but, que tous les humains croient. C'est la parole qui fait que tous les humains peuvent croire. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais les miracles du Seigneur sont la démonstration de sa gloire. Et sa gloire repose là où son nom est invoqué. Donc, puisque nous invoquons son nom, sa gloire se manifeste. Que ça amène, ça aboutisse à la conversion des gens, gloire à Dieu, mais que ça n'aboutisse pas, eh bien, les gens ont un choix à faire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons recevoir l'enseignement que Dieu veut nous donner à travers sa parole. Quel est l'enseignement qu'il veut nous donner à travers ce Jean 11 ? Jésus-Christ peut tout. Il est le Seigneur, le secret des miracles. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui guérit, qui ressuscite les morts. Et d'ailleurs, dans d'autres textes, quand il les envoie, il dit « Allez guérissez les malades, ressuscitez les morts, annoncez que le royaume de Dieu s'est approché. » Il faut que les gens comprennent qu'il y a une différence entre un médecin et Dieu. Il faut qu'ils voient qu'il y a une différence entre l'État et Dieu. Il faut que le royaume de Dieu se manifeste en gloire. Jésus a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Il n'a pas dit seulement, si tu crois, tu iras au ciel. Ça, c'est une étape. Si tu crois, tu iras au ciel. Mais il y a une deuxième phrase, si tu crois, tu verras ma gloire. Donc, nous n'allons pas nous arrêter à, si tu crois, tu iras au ciel. Nous avons accepté ça. Mais nous devons accepter aussi, si tu crois, tu verras ma gloire. Jésus avait déjà gagné son pari de faire croire, de faire comprendre à ses disciples que si nous croyons, nous irons au ciel. Puisque Marthe l'a dit, il a dit, Lazare ressuscitera au dernier jour. Nous croyons, Seigneur, que tout ce que tu dis, il avait déjà réussi. Il a dit, mais je ne suis pas venu que pour ça. Je suis venu aussi pour que ceux qui croient vivent la gloire de Dieu. Parce que Jésus se serait arrêté là, disant, bon, mes disciples croient que si nous croyons, c'est bon, nous irons au ciel. Vous savez, il y a plein de religions avec zéro miracle, mais avec plein de gens qui suivent. Prenez par exemple la religion du football. Il y a zéro miracle, mais ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de monde qui suivent. Prenez par exemple la religion bouddhiste. Il y a des millions, de plus de 500 millions, je crois, de bouddhistes. Prenez la religion hindoue. Il y a plus de 500 millions, peut-être il y a 1 milliard d'hindous. Mais il y a zéro miracle. Pour suivre dans une foi quelconque, c'est pas les miracles qui comptent, mais les miracles du Seigneur sont là pour dire, ah, là nous avons affaire au Dieu véritable. Ben, si vous voulez croire au mensonge, croyez. Mais là, le miracle de Dieu montre que le Dieu véritable est celui-là. C'est clair. Les miracles font la différence. Les miracles manifestent la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement en chantant. Ce n'est pas seulement en louant, en sautant. C'est bien. D'ailleurs, même il y a des versets qui disent que lorsque je suis faible, je suis fort. C'est bien. Mais Dieu, lui, reste toujours fort. Il n'est jamais faible. Là, on parle de nous. Lorsque je suis faible, je suis fort. Mais Dieu, lui, il est toujours fort. Nous ne voulons pas faire le mélange entre nous et Dieu. Que pour nous, ça paraisse un cas difficile, ce n'est pas le cas pour Dieu. Et nous voulons que désormais, nous-mêmes, nous n'employons plus ce terme-là, cas difficile. Parce que Jésus, pour lui, il n'y a pas de cas difficile. Pour lui, la mort de 4 jours de Lazare, c'est un sommeil. Il veut nous enseigner à entrer dans sa dimension à lui, à monter dans sa dimension. Ma prière, c'est que nos yeux s'ouvrent. C'est ça, que nos, les yeux de la foi s'ouvrent. Donc quand on a chanté, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir Seigneur. C'est ça, vraiment ma prière. Ouvre les yeux, ouvre nos yeux Seigneur, que nous comprenions à qui nous avons affaire. Ouvre nos yeux, que nous entrions dans ta dimension. Ouvre nos yeux. Que personne ne te vole ce qu'on t'a donné. Et ce jour-là, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti après 4 jours de mort. Il est sorti. Personne n'est entré à l'intérieur. Il a crié de l'extérieur, sors. Comme ça, c'est clair que ce n'est pas une invention, ce n'est pas un jeu. Tout le monde est témoin, on enlève la pierre, personne n'entre à l'intérieur, il sent déjà, allez, Lazare sort maintenant. Et il sort. C'est la dimension dans laquelle Dieu nous attend. Qu'est-ce que tu considères comme cas difficile, que tu considérais avant comme cas difficile? Aujourd'hui, ça doit sauter. Ce que tu considérais comme cas difficile, ça doit sauter. Que ce soit une maladie, que ce soit un problème dans la famille, que ce soit un problème en France, que ce soit un problème dans le monde. Peu importe ce que tu considérais comme cas difficile, aujourd'hui comprends que ce n'est pas un cas difficile. Pour Dieu, il n'y a pas de cas difficile. Que quelque chose traîne ne veut pas dire que c'est difficile. Quand Jésus était sur terre, il savait bien qu'à son départ, l'humanité entière ne serait pas encore sauvée. Mais il savait qu'à la... Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Tout est accompli. Mais pourtant, tous les humains n'ont pas été sauvés quand il a crié « Tout est accompli ». Mais il a réglé le problème au ciel. Tout ce que vous lirez au ciel, tout ce que vous délirez sur terre, plutôt lirez sur terre ou déliez sur terre, aurait été lié déjà au ciel. Régler le problème au ciel, ça suffit. Parce que le ciel est une dimension qui déteint sur la dimension terrestre. Le ciel est une dimension supérieure à la dimension terrestre. Donc quand tu règles au ciel, ça va s'implémenter sur terre. Quand il crie « Tout est accompli », il a réglé la chose. Donc quand nous disons que ton cas difficile là doit sauter, tu dois régler la chose au niveau céleste. Aujourd'hui, tu règles ça et tu verras cela s'accomplir. C'est pourquoi c'est écrit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Donc réglez le problème dans la dimension céleste, vous verrez que sur terre ça suivra. Ne soyez déstabilisés par aucun cas. Il n'y a pas de cas difficile pour Dieu. Donc tout ce que tu considérais comme cas difficile, il faut régler ça aujourd'hui. Un enfant a problème. Ben, considère que c'est réglé. Vous savez, Smith Wigglesworth, c'est un évangéliste d'une certaine époque, dans les années 1930, comme ça. Il avait tellement foi en Dieu qu'un jour, après une campagne d'évangélisation, pendant qu'il était en train de dormir seul dans sa chambre, il sent une présence, il ouvre les yeux, il voit Satan en personne. Mais bon, sous une forme horrible, bien sûr. Il voit Satan en personne à la fenêtre. Oh, il dit, oh, mais c'était que toi. Et il s'endort. Je pense que si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, ça serait veillé jusqu'au matin. Ça serait, wow. Sors de ma maison, peut-être qu'il est déjà parti, il continue à dire, sors de ma maison. Lui, il s'est réveillé, il a vu, Satan était à la fenêtre là, en forme horrible. Oh, ce dérangement-là, c'était toi. Il s'est rendormi dans sa couverture. C'est la dimension dans laquelle Dieu nous attend. Comprendre que si Jésus est avec nous, et ce que je dis là, ce ne sont pas des inventions, c'est écrit noir sur blanc. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est écrit! C'est écrit! Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, surtout en Afrique, se promènent avec du miel. Au cas où il y a empoisonnement, ils boivent tout de suite. Pourtant, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils prendront des breuvages mortels et rien ne leur arrivera. Nous devons revenir à notre statut, pas par la bouche, par la réalité. C'est une réalité. Il n'y a pas de cas difficile devant Dieu. Il y a des gens qui disent, ah non, moi, ce péché-là, c'est compliqué, hein? Mais ce n'est pas compliqué devant Jésus-Christ. Jésus a vaincu le péché. Il a dit, quand il a dit tout est accompli, même le péché, il a vaincu aussi. Lisons Jean 8 pour clôturer, 1 à 11.
Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus.
Amen. Voilà un cas, une fois de plus, difficile. Comment nous savons que c'est un cas difficile? Parce que ils ont décidé de la tuer. Les cas difficiles, qu'est-ce qu'on en fait? On les laisse comme ça. Quand à l'hôpital, ils ont trouvé que ton cas est difficile, ils te mettent dans une unité de soins palliatifs. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus rien. Donc du coup, ils vont seulement veiller à te soulager la douleur. Et même quand tu attrapes la bronchite, la grippe, ils ne vont pas te traiter. Ils disent que ta maladie principale est tellement forte que la grippe t'emporte, que la bronchite t'emporte. Ce n'est pas grave. Ils ont déjà capitulé par rapport à la maladie principale. Donc il faut laisser seulement comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? les cas difficiles attirent la mort. Quand on décrète que quelque chose est un cas difficile, on attire la mort. C'est-à-dire que cette chose-là doit mourir, puisqu'on y peut, on ne peut rien faire, donc ça doit mourir. C'est comme ça que, vous allez me dire, mais oui, mais c'était écrit dans la loi, c'est pourquoi ils voulaient la lapider. Mais même la loi, pourquoi la loi a écrit qu'il faut lapider ces gens-là? Mais puisque c'est des cas, à l'époque, Jésus n'est pas encore là pour sauver. Donc du coup, quand quelqu'un atteint ce niveau de péché, donc c'est un cas difficile, on ne peut rien faire, on lapide. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si il y a des cas difficiles dans ta vie, ça veut dire que tu as décidé que la mort règne dans ta vie. C'est ce que nous voulons dire. Le cas là que tu considères comme compliqué, difficile, tu ne vas plus t'en préoccuper. Donc tu laisses ça au diable. Tu laisses ça à la mort. Si tu considères qu'un pays est compliqué, tu ne vas plus t'en préoccuper. Si tu considères qu'un cousin est compliqué, tu ne vas plus t'en préoccuper. Tu ne sais pas ce qui va lui arriver, mais tu fais comme s'il n'existait plus. Donc il est mort pour toi. Si une maladie pour toi est un cas difficile, tu ne vas plus chercher la guérison. Tu vas te maintenir, essayer de manger le plus grand nombre de KFC avant de mourir. C'est tout. Donc tu décides que la mort règne. Nous avons connu des gens, une fois, quand j'étais dans la région parisienne, une personne avait des maux de tête terribles, une femme. Mais elle était dans une église baptiste. Pour eux, aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus à prier pour les malades. Pour eux, les démons ne peuvent pas toucher un chrétien. Ainsi de suite. Du coup, ils priaient pour elle comme ça rapidement. Dès qu'il commençait à y avoir des manifestations, ils priaient, Seigneur, qu'elle reçoive la paix. Mais Jésus, quand il a donné Marc 16, 17, il dit, « À mon nom, ils chasseront les démons. Sors !» Tu sors, tu chasses ces démons-là. Parce que c'est toi qui as reçu cette autorité-là de les chasser. Dès qu'il y avait des manifestations, « Seigneur, que la paix revienne sur elle. » Du coup, la dame a fini par arrivé dans notre église là-bas, nous lui avons dit, les débats de doctrine, nous on n'a pas le temps pour ça. Tu souffres, nous allons prier pour toi. On a chassé l'esprit. Vous savez qui avait mis l'esprit? C'était son ostéopathe. Voilà. Donc c'est lui, puisqu'on a demandé à cet esprit, comment tu es entré? C'est l'ostéopathe qui a imposé les mains. Nous avons chassé l'esprit. La femme est devenue normale. Nous n'avons pas le temps de débats de doctrine. Jésus, il veut être le seul à régner dans la vie de quelqu'un. Pas un démon qui te donne des maux de tête à l'infini. Parce que tu vas beaucoup plus parler de ces démons-là que de Jésus, si c'est le cas. C'est pourquoi tu ne dois pas fuir comme Marthe les débats. Tu dois faire face. Jésus peut-il guérir ou pas? Eh bien, je vais me lancer dans ça jusqu'au bout. Je ne fuis pas les débats en disant j'ai la vie éternelle. D'accord, tu as la vie éternelle. Mais tu as aussi la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toute situation que nous considérons difficile, nous finirons par laisser ça tomber. C'est-à-dire laisser la mort régner. On dira bon. Mais, gloire à Dieu, il y a des situations, même quand tu dis je laisse tomber, tu souffres tellement que tu ne laisses plus tomber. Quoi. Et ce sont ce genre de souffrances qui font que les gens finissent par chercher Dieu quand même, puisque c'est trop fort. Mais je vous le dis pour des choses qui n'entraînent pas de grosses souffrances personnelles, dans le sens où ça ne t'empêche pas de vivre. Par exemple, un voisin qui est hyper musulman, mais tu te dis, mais qui se convertisse ou pas, inconsciemment, tu te dis, ça ne t'empêche pas de vivre, toi. Tu te dis, mais il est trop loin pour changer. Mais bien-aimé, nous avons des témoignages. Un dernier témoignage qui circule sur YouTube, ce monsieur était imam, un grand imam. Il a fait même un livre pour détruire le christianisme. Il a fait un livre qui est une interprétation des choses de l'islam pour montrer que le christianisme est faux, quoi. Les chrétiens se trompent. Vous savez comment il s'est converti ? Jésus a utilisé son livre à lui, qui était censé contredire le christianisme. C'est le même livre là qu'il a amené au Seigneur. Pour dire devant Jésus, il n'y a pas de cas difficile. Parce que le livre que lui, il utilisait, il a réussi à convertir les chrétiens à l'islam. Mais ce même livre-là, un jour, quand il lit une phrase de ce livre-là, ça lui dit le contraire. Par la puissance de Jésus-Christ. Mais maintenant, si tu considères que cet homme-là, que c'était fini pour lui, est-ce que tu allais prier encore pour lui? Non. Si tu considérais que son cas est très grave, est-ce que tu vas encore t'investir? Non, parce que ça ne t'empêche pas de vivre. Là où nous continuons quand même à faire des choses, quand ça nous empêche de vivre, tu souffres tellement que ben, tu te dis, il faut trouver une solution. Mais quand ça ne t'empêche pas de vivre, on laisse les choses pourrir. Ben, on s'en va au divorce. Parce que je pourrais vivre, je pourrais manger sans lui ou sans elle. Tu ne veux pas te battre avec la gloire de Dieu. Avant-hier, ou il y a 2 jours, j'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Il est parti chez son coiffeur habituel. Le coiffeur était empêché. Il lui dit, écoute, je t'envoie ma nièce. Si tu es d'accord qu'elle te coiffe, elle s'est bien coiffée, si tu es d'accord, parce que moi je dois aller urgentement dans tel endroit. Et la nièce descend dans le salon de coiffure. Dès que le pasteur voit la nièce, il se dit, oui, là, 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 qu'est-ce que j'ai fait accepter cette affaire? La fille était tatouée partout, avec des piercings partout. Et se dit, lui s'est dit, ça c'est un cas fini, je veux me taire, elle n'a rien à m'apprendre, moi je n'ai rien à lui apprendre, je me tais, elle me coiffe et je m'en vais. Elle commence à le coiffer, il dit, mais j'ai entendu que vous étiez pasteur d'où? Je dis, ah bon, elle peut parler? Il répond, oui, je suis pasteur, mais je... Ah, dans tel endroit? Mais j'y étais dimanche passé. Ah bon? Oui, j'y étais. J'avais amené ma cousine et ma tante. Et le pasteur là-bas, quand il a prêché, nous avons tous pleuré. Nous avons compris ceci, cela. Mais ce qui nous manque, c'est quelqu'un pour nous expliquer la Bible. Mais le pasteur était confondu. Confondu. Il a dit, madame, je suis prêt, après la coiffure, à aller chercher ma Bible, faire l'étude biblique personnalisée ici. Voilà. Dieu lui a montré qu'il n'y avait pas de cas fini avec Dieu. Il n'y avait pas de cas difficile. Les piercings ne vont pas faire peur au Saint-Esprit, ni les tatouages. Il est plus fort. Cas difficile, ça veut dire enterrement. Donc si tu te considères comme un cas difficile, tu considères que ton péché qui t'embête, c'est un cas difficile, donc tu décides qu'on t'enterre, puisqu'il n'y a pas de solution. Donc tu as décidé ta mort. Nous te disons, tu peux ressusciter comme Lazare.
Voilà. La situation que tu as tuée, ça peut ressusciter comme Lazare. Même si ça sent, ça peut ressusciter. Parce que dire cas difficile, dire il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ou la solution est trop complexe, m'impliquer, c'est trop lourd. Alors on laisse les choses ainsi. C'est ce que Satan veut. Que ce soit ta famille, que ce soit ton pays, ce ne sont pas des cas difficiles pour Jésus-Christ. Que ce soit le péché qui t'embête, ce n'est pas un cas difficile pour Jésus. Jésus l'a démontré. Ces gens-là voulaient lapider cette femme parce qu'ils n'avaient pas de solution pour elle. Quelle honte, attraper un flagrant délit d'adultère. C'est une honte dans le quartier. Donc on l'élimine comme si on est tranquille. Voilà. Les gens qui veulent tuer, c'est des gens sans solution. Jésus, lui, il a la solution. C'est pourquoi il propose la vie. Parce qu'il a la continuité, il a la solution. Cas difficile, c'est la mort. Donc si tu veux rester dans ton cas difficile, ça veut dire que tu as décidé ta mort. Nous allons prier que tout ce que tu considères cas difficile soit ôté aujourd'hui. Tout ce que nous considérons comme cas difficile, que ça soit ôté au nom de Jésus-Christ.